MIPIM 2025 en partenariat avec Procivis sur Radio Imo.
Eh bien, de retour les amis pour cette édition 2025 du MIPIM. Il est déjà 17h25, pratiquement 17h30. Voilà, une très belle journée, une journée dense. Bon, l'avantage, c'est que comme il ne faisait pas très beau, vous êtes tous restés à l'intérieur pour écouter, bien sûr, Radio Imo, c'est une évidence. Voilà, on reçoit les acteurs de premier plan de la fabrique de la ville, du logement, mais pas que, ceux qui, aujourd'hui, œuvrent tous les jours pour que les villes soient apaisé. D'ailleurs, je vous rappelle le grand entretien qu'on a eu tout à l'heure avec Valérie Létard, la ministre du Logement, qui a été extrêmement appréciée. Merci à toutes et à tous de nous avoir. Écoutez, je vous ai parlé justement des grandes figures de l'immobilier qui justement circulent sur le plateau. C'est la première fois d'ailleurs que je la reçois sur mon plateau, j'en suis ravi. Bonsoir Sophie Grimaldi.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Vous êtes la directrice générale de SNCF Habitat.
Exactement, présidente, directrice générale de SNCF Habitat.
Alors vous faites partie du réseau Procivis.
Oui.
Puisque c'est une SACICAP.
C'est une SACICAP, exactement.
Extrêmement intéressant, c'est un réseau de promotion, mais un réseau immobilier, Procivis, qui est un réseau coopératif et fondé sur la coopération. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on parle, vous savez, de promotion immobilière ou de gestion immobilière ou d'opération immobilière, on ne pense pas toujours au côté coopératif.
Non.
Ça ne vient pas tout seul naturellement et je trouve ça extrêmement intéressant comme modèle. En quelques mots, SNCF Habitat, votre mission première.
Notre mission première, c'est de réaliser des missions sociales. Elles sont de deux natures. La première, c'est d'octroyer des prêts à taux zéro aux cheminots. Et la deuxième, c'est de leur permettre de rénover leur logement en avance de fonds. Et puis par ailleurs, une autre activité un peu plus mineure qui est de financer des copropriétés dégradées.
Les copropriétés dégradées, c'est un vrai sujet. Hein.
Oui.
C'est un sujet grave même, qui glisse. Et vous fabriquez aussi du logement, vous construisez du logement à partir d'un foncier qui vous est cédé par la SNCF.
Oui.
Très souvent. L'objectif d'abord, votre cœur de cible, ça veut dire que c'est de servir d'abord les salariés de la SNCF, les cheminots en particulier.
Tout à fait. C'est d'enrichir la marque employeur, c'est de renforcer l'attractivité du groupe. Et donc, c'est d'œuvrer à la politique RH de la SNCF.
Alors, justement, est-ce que le logement prend, on le voit bien quand on voit les chiffres, une dimension essentielle dans le cadre justement de la marque employeur, de l'attractivité des métiers? On voit bien que l'offre de logement qui est extrêmement tendue pose vraiment une difficulté. Est-ce que aujourd'hui, vous avez la marge de manœuvre qui vous permet justement de faire face à cette demande vis-à-vis d'un public dans lequel on voit bien que l'accès à la propriété, c'est toujours une vraie envie. Et surtout, comment vous faites pour permettre à des personnes qui ont des revenus plutôt
modestes,
on peut même dire parfois très modestes,
oui,
d'accéder à la propriété dans de bonnes conditions? Parce que la question, Sophie Grimaldi, du logement abordable est une question de fond. Est-ce qu'on peut, faut assumer l'idée, peut-être, qu'on n'est pas forcément aujourd'hui en capacité de faire du logement abordable? Est-ce que vous avez une maîtrise sur les coûts des matériaux? Je ne pense pas.
Non.
Sur le coût de main-d'œuvre, je ne pense pas non plus.
Non.
C'est quoi l'arbitrage? C'est le prix du foncier? C'est comment on fait?
C'est le prix du foncier, c'est de limiter les marges pour effectivement favoriser l'accession, mais c'est aussi au travers de la SACICAB d'accompagner les cheminots avec un prêt à taux zéro qui peut monter jusqu'à 22 000 euros et qui permet de compléter un financement et de leur permettre finalement d'accéder à la propriété avec des remboursements qui sont équivalents au loyer qu'ils payaient auparavant.
C'est ça l'idée. Est-ce qu'on y arrive?
On y arrive dans des volumes qui ne sont pas encore complètement à la taille de la SNCF, mais en même temps, la SNCF a plusieurs outils pour favoriser le logement de ses salariés. Il y a le groupe ICF Habitat qui est un bailleur social. Il y a Association Parme qui fait du logement temporaire. Et puis il y a également, donc maintenant, ICF Habitat Promotion qui va développer des programmes de promotion libres et pas seulement pour favoriser effectivement l'accession des cheminots.
Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres sur SNCF Habitat? C'est quoi l'objectif?
L'objectif, c'est de
produire combien d'unités sur une année?
C'est de faire 150 à 200 logements par an.
C'est pas mal.
Oui, c'est pas mal.
À l'échelle de cette SACICAP que vous reprenez et vous redéployez, c'est pas mal. Vous y arrivez?
Là, on a un projet qui est d'envergure. On va déposer le permis de construire à la fin du mois. Donc oui, c'est parti.
Question, est-ce que vous aussi, vous essayez d'adapter, je pense que oui, mais aussi des modes constructifs qui permettent, par exemple, d'optimiser la production, les productivités? Je vous donne un exemple. On parle beaucoup de construction hors site.
Oui.
On parle beaucoup aussi en termes de frugalité énergétique, d'ossature bois ou de structure bois ou un mix matériaux.
Oui.
Est-ce que vous posez certainement les mêmes questions que les autres promoteurs, et en quoi ça pourrait par exemple avoir un impact sur le prix? Je vous donne un exemple. On voit bien que les opérations qui sont faites en bois sortent plus vite.
Oui.
Donc elles sortent plus vite avec effectivement des taux de rendement qui sont extrêmement intéressants, mais quand même on a du mal à ajuster le prix de sortie qui coûte quand même un peu plus cher que la construction, j'allais dire, dite classique. On voit qu'il y a des prix qui quand même ne sont pas anodins. Alors peut-être que c'est la massification de l'industrie qui permettra d'optimiser les prix, mais comment aujourd'hui, quelle est votre vision promoteur de taille intermédiaire qui vous permette d'envisager ce que sera demain la promotion, parce qu'on parle du tout béton ou du tout bois, je ne pense pas que c'est ni l'un ni l'autre, il y a peut-être un peu des deux, non?
Alors, aujourd'hui, on a une logique de start-up qui démarre, sur lequel la prise de risque doit être relativement minime. Et donc, on ne fait pas de folie sur les modèles de construction qu'on va choisir. On est sur du standard, on va offrir aux cheminots des choses qui sont solides de qualité. Et on a vraiment un objectif fort du groupe d'être sur de la qualité. C'est des sujets qui viendront sans doute dans deux ou trois programmes plus tard, mais on ne va pas commencer à prendre des risques là où ceux qui sont là depuis 20 ans ne le prennent pas forcément. Donc, on verra ça.
Alors, justement... on le voit aujourd'hui, les Français plébiscitent l'accession à la propriété. On l'a dit tout à l'heure, la primo-accession, c'est le ventre mou du marché de la transaction. Ça repart.
Oui.
Est-ce que ça aussi, vous le sentez? Parce que dans le métier de la promotion immobilière, vous le savez, le marché s'est carrément rétréci de moitié dans les deux dernières années. Alors vous êtes peut-être dans une configuration différente. Mmh. Tant mieux pour vous, vis-à-vis de certains de vos collègues qui souffrent un peu plus, mais quelque part, vous en subissez également les répercussions.
Alors, ce que je vois, c'est que par rapport à il y a deux ans, quand on a repris la structure, on délivrait assez peu de prêts à taux zéro aux cheminots. Donc, à la fois, on n'était pas très actifs commercialement parlant, mais aussi le marché ne devait pas être complètement au rendez-vous. Alors qu'aujourd'hui, on a une augmentation de près de 40% des prêts délivrés.
Oui, quand même.
C'est quand même le signe d'un besoin, qu'on répond à quelque chose et que les cheminots sont en attente, oui.
Est-ce que c'est la réactivation de SNCF Habitat?
Oui.
Avec une politique volontariste?
Oui, avec une politique marketing volontariste et d'analyse de données. Oui.
Pourquoi? C'est la gouvernance qui l'a souhaité de remettre au goût du jour SNCF Habitat et d'en faire un outil marque employeur offensif?
Parce que ça fait partie de l'ADN du groupe de faire du social, d'accompagner ses salariés, et que c'est un outil qui était à disposition mais qui était plutôt atone. Il nous a paru logique de redémarrer l'activité. Oui.
C'est quoi l'objectif? Est-ce que l'objectif, c'est d'évoluer en volume ou de garder une voilure raisonnable, comme vous disiez?
L'objectif, c'est de délivrer 2 à 3 millions de prêts par an, pas beaucoup plus. En revanche, l'objectif est bien de faire du résultat sur la structure de promotion immobilière pour remonter des dividendes et permettre de pérenniser ces prêts.
Alors, je vais le dire au public, parce que c'est hyper important. Remonter du dividende, ce n'est pas pour servir des actionnaires.
Non.
On va le rappeler. Mm. Pour permettre justement à des bénéficiaires d'avoir une masse qui permet effectivement de faire les prêts à taux zéro, notamment que vous opérez,
oui.
pour les bénéficiaires. Parce que c'est important ce que je vous dis là, les amis, parce que le modèle coopératif ne sert pas un actionnaire en particulier avec un taux de rendement. Au contraire, il redistribue la richesse qui a été créée. Je trouve ça extrêmement sain dans un contexte qui est quand même assez difficile pour le logement des Français.
Oui.
Est-ce que les cheminots, enfin l'écosystème autour de la SNCF, a les mêmes difficultés que les Français pour le logement?
Exactement les mêmes. Avec
on n'a pas cette... Vous savez, l'impression souvent qu'on se dit, vous savez, je fais partie de la SNCF, donc j'ai droit à un logement, etc., etc.
Les problématiques sont les mêmes, avec en plus des gens qui potentiellement peuvent démarrer très tôt le matin, et donc du coup ne doivent pas être trop loin de leur lieu de prise de service pour pouvoir conduire le train, assurer le contrôle. Donc on a des il y a moins d'ouverture que les autres salariés, et donc effectivement il y a une problématique assez forte de logement.
Donc la contrainte de la relation emploi-logement est importante chez vous, plus qu'ailleurs,
oui.
Par rapport notamment à l'écart en durée ou à la géographie. Souvent, vous savez, quand on dessine Paris, on voit les immeubles autour de Paris qui étaient à des encablures de bouches de métro, parce qu'on logeait aussi les cheminots de la RATP à proximité de la prise justement de service qui était clair. Donc on le comprend bien. On dit souvent que la SNCF a un foncier absolument phénoménal. Alors est-ce que c'est encore un mythe ou est-ce que c'est une réalité, et que finalement ce gisement foncier peut permettre dans l'action de SNCF Habitat qu'on qu'on doit saluer au passage, parce que c'est important ce que vous faites. Encore une fois, vous ne faites pas de bénéfices, les bénéfices permettent de réinvestir pour les bénéficiaires. Est-ce que vous avez plus de facilité que vos collègues du réseau ProCivis pour trouver du foncier, on va dire, de qualité?
J'ai passé 20 ans dans le groupe SNCF, donc je connais beaucoup de monde.
C'est clair.
C'est possible qu'au travers d'un café, je récupère de l'information que d'autres collègues n'auraient pas. En revanche, ce qui est très très clair, c'est qu'à aucun moment, les fonciers me seront cédés à un prix inférieur que ce qui serait cédé sur le marché global.
On pourrait s'y attendre, mais ce n'est pas le cas.
C'est pas le cas parce qu'on a des responsabilités, de la façon dont on utilise les fonds publics. Il n'est pas question de brader. Il n'est pas question que... Donc non, c'est au même prix, sauf que parfois...
Mais comment on fait pour sortir un logement abordable? Parce que le problème, ce n'est pas le fait que vous ayez un foncier trop cher ou pas cher, c'est surtout que vous sortiez des unités qui permettent à des Français, aux salariés de la SNCF, mais pas que, d'avoir un accès à la propriété à des prix abordables. Est-ce qu'on peut faire encore du prix abordable?
On a le sentiment qu'on va être capable de le faire. C'est ce qu'on a monté dans le programme qu'on est en train de sortir là. On n'a pas de baguette magique, donc les coûts de construction ont augmenté et seront aussi chers pour nous. La prise de risque, elle est la même et on a des interrogations sur notre capacité à commercialiser vite. Donc on a les mêmes contraintes. On a un accès à une population qui est 150 000 cheminots sur lequel on va pouvoir communiquer. On a ce financement pour les salaires un peu plus bas qui sont ces 22 000 euros après à taux zéro. Donc on a des facilités et un accès qui devrait nous permettre d'avoir un peu moins de contraintes que d'autres.
Question. Quel regard vous jetez actuellement sur la situation actuelle quand vous venez au MIPIM? Qu'est-ce que vous ressentez, vous qui avez l'habitude de venir dans ce type de manifestation? C'est quoi votre premier sentiment? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de résilience, ça repart, il y a de la confiance? Est-ce que vous sentez au contraire qu'il y a des tensions? On le voit, hein, le marché de la promotion et de la construction s'est rétréci de moitié, je l'ai dit tout à l'heure, et que réparer une crise comme celle qu'on va connaître, ça va demander encore quelques années.
En toute franchise, j'ai fait beaucoup de trains, beaucoup de marketing et beaucoup de finances, mais pas beaucoup d'immobilier. Donc ça fait 2 ans que je suis dans cet univers-là. Je manque un peu de recul pour vous dire...
Est-ce que vous sentez une certaine fébrilité ou pas?
Oui, ça oui.
Oui.
La fébrilité et du flottement aussi.
D'accord.
Je sens une activité, pour en avoir connu d'autres, où ça flotte un peu. Oui.
C'est quoi, avec le recul que vous avez sur ces 2 dernières années? En plus, 2 dernières années pour entrer dans l'immobilier en pleine crise. Alors là, super. Alors, on ne peut pas faire plus que contracyclique que ça. Non, mais c'est vrai.
Mais c'est une vraie opportunité. Parce que
vous
moi,
avez passé
pas
20 ans dans la finance. Non, mais là, je vais vous dire, ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça super. Je trouve ça vraiment super. On le voit aujourd'hui. Bon, problématique de matériaux, je ne vais pas revenir là-dessus. Les problématiques foncières sont une réalité. Et le foncier sera de plus en plus rare, faut être très clair là-dessus, voilà, on va pas épiloguer. J'aimerais avoir votre avis peut-être plus en tant que citoyenne, comment on fait pour, quand on a une démographie plus élevée, une demande de besoin, je ne veux pas vous donner les chiffres, 2,8 millions de personnes inscrites sur les listes pour avoir du logement social, 4,5 millions de foyers qui souhaitent accéder à la propriété qui n'y arrivent pas, on a 330 000 personnes, 350 000 rapports de la Fondation Abbé Pierre sur les personnes sans domicile, ou sur tout simplement des personnes qui travaillent mais qui n'arrivent même pas à se loger parce qu'ils n'en ont pas les moyens, qui vivent dans des logements de transition, de fortune parfois, et c'est assez dramatique. Et je ne parle pas du logement étudiant. Comment on fait pour faire cohabiter ces deux notions? On sait qu'il y aura de moins en moins de Français et pourtant il faut loger les Français et ils seront de plus en plus nombreux. C'est quoi l'équation? Vous vous dites quoi avec ces 2 années de recul? Il faudra construire plus haut, plus petit? Comment? On fait comment? On densifie, qu'est-ce qu'on fait?
Plus haut, je ne sais pas. Réinventer la façon dont on construit et la façon dont on structure des grands immeubles, de ce que j'en vois en arrivant de l'extérieur, c'est encore très classique. Donc peut-être qu'il faut brainstormer, réfléchir, comprendre le besoin des Français sur l'usage qu'ils font de leur logement. On sait que les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses et pourtant on construit toujours des T3 avec une chambre pour les enfants
et
pour les parents.
Et
donc il y a une adaptation sans doute à avoir entre les modes de vie, ce qui se passe dans la société et puis ce qu'on est capable de sortir avec des modèles économiques qui sont ceux d'il y a 15 ans et qu'il faut sans doute aussi réinventer. Donc c'est aussi une opportunité effectivement d'arriver à ce moment-là dans la profession. Il faut réinventer des choses, c'est évident.
Et vous le ressentez hein, finalement cette différence entre l'avant et l'après. Il y a le Covid bien évidemment, mais on ne construira plus de la même façon. Et même le métier de promoteur de base, aujourd'hui, ne sera plus appréhendé de la même façon. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Sophie Gaimali, je rappelle que vous êtes la directrice générale de SNCF Habitat et vous faites partie du réseau Procivis, qui est notre partenaire, ça tombe bien, avec l'UMIPIM. Et vous représentez, puisque nos amis de Paris, de Procivis, n'ont pas pu être là sur le MIPIM. Donc voilà, Sophie Grimaldi, c'est vous qui représentez la marque. En tout cas, j'étais ravi de vous recevoir. Merci d'être passé sur le plateau de Radio Immo. À suivre, nous allons recevoir le délégué général de la Fondation Palladio, qui va nous voir tout à l'heure. Vous allez voir, une fondation qui mérite véritablement la lumière, puisqu'elle fait des actions au niveau de la fabrique de la ville extrêmement puissantes et fortes, de la même façon qu'on le fait avec nos amis de la Fondation de France et de la Fondation Elojou pour le mieux logement. Voilà, il est 17h40 et vous êtes sur Radio Immo. On se revoit tout à l'heure.
MIPIM 2025 en partenariat avec Procivis sur Radio Immo.